Dr. Dave Mathewson, Apocalypse, Conférence 27. Apocalypse 20, le millénium et le grand. Jugement du trône blanc. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Rill de Brent. Il s'agit du Dr. Dave Mathewson dans son cours sur le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de la séance 27 sur Apocalypse 20, le millénium et le jugement du grand trône blanc. Donc, pour aborder la question du millénaire, j'ai discuté brièvement de plusieurs principes qui, à mon avis, sont importants et qui doivent être en place, ou qui, je pense, devraient être en place lorsque nous interprétons le millénaire. Un autre principe est que nous devons toujours garder un œil sur l'histoire de l'Église et sur ce qu'elle nous a enseigné, sur la manière dont elle est confrontée au texte et sur ce qui a été important et précieux sous cet aspect. Mais j'ai souligné quatre choses, juste pour récapituler très rapidement. Premièrement, les 1000 ans, peu importe ce à quoi nous pensons qu'ils se réfèrent temporellement, doivent être considérés comme symboliques. Autrement dit, ils pourraient faire référence à une période de pratiquement n'importe quelle durée, sauf 1000, comme tous les autres nombres, symboliques. Ce deuxième chapitre 20, je pense, fait référence, quelle que soit la manière dont nous le comprenons, à quelque chose qui se produit lors de la seconde venue du Christ dans le contexte de 19 à 21. Le chapitre 20, je pense, fait toujours référence à ce qui se passe lors de la seconde venue du Christ. Du Christ à la fin de l'histoire. Troisièmement, nous avons dit que nous ne devrions pas nécessairement suivre un ordre chronologique strict. Et enfin, je pense que notre interprétation doit refléter le rôle que joue le chapitre 20 dans l'Apocalypse, à savoir qu'il n'est pas l'élément le plus important. Ce n'est pas le but et le point principal de l'Apocalypse, c'est la nouvelle création qui l'est. Ceci dit, permettez-moi de parler un peu de la façon dont j'ai lu le chapitre 20 de l'Apocalypse et en particulier les versets 4 à 6 et la référence au millénium. À mon avis, la référence millénaire dans Apocalypse 20 doit avant tout être considérée simplement comme un symbole de la justification des saints. Autrement dit, nous avons déjà noté que le chapitre 20 est censé être cette référence à la fin du verset 4 à la vie et au règne avec Christ. La fonction première de cela dans l'Apocalypse est d'être considéré comme un renversement et un contraste avec la carrière de Satan et des bêtes. Satan et les deux bêtes ont été dépeintes, et particulièrement maintenant, comme le fer de lance de tout cela. Satan a été dépeint comme celui qui règne et gouverne. La terre et son royaume et sa domination, désormais exprimée à travers l'Empire romain pour Jean au 1er siècle, sa domination domine tout. Et à cause de cela, il a mis à mort les chrétiens. Son verdict à l'égard des chrétiens est donc de se débarrasser d'eux et de les tuer parce qu'ils résistent et refusent de coopérer avec son royaume. Alors, il les met à mort. Maintenant, dans un acte complet de renversement, le verdict est maintenant que, contrairement à ce qui était vrai à l'époque du règne de la bête, exactement à l'opposé, maintenant les saints prennent vie. Les saints qui ont été mis à mort reprennent vie. Contrairement à Satan, qui régnait, les saints règnent. Je suppose donc que les 1000 ans doivent donc avant tout être considérés comme symboliques de cet événement. La résurrection, la venue à la vie et le règne des saints comme leur justification. Donc, je suppose que les 1000 ans ne font pas vraiment référence à une période de temps spécifique d'une durée substantielle. C'est simplement une autre manière, une manière symbolique de faire référence à ce qui se passera lorsque le Christ reviendra. Les saints seront ressuscités et justifiés, et ils régneront, ils prendront vie et régneront en contraste direct avec la façon dont ils ont été traités par la bête qui régnait. Et cet événement est symbolisé par la période millénaire. Je ne pense donc pas que cela fasse nécessairement référence à une période de temps littérale, dans la mesure où une longue période de temps s'étend après le retour du Christ, mais peut-être simplement une autre façon de décrire ce qui se passe lors de la seconde venue du Christ. Il élève les saints et il règne pour leur justification dans le contexte du jugement de Satan. Maintenant, il règne, et cela est symbolisé par 1000 ans, où les 1000 ans symbolisent simplement les 1000 étant le nombre de complétude et de plénitude. Nous voyons maintenant la pleine justification des saints symbolisée par ce millénaire. Le nombre de milliers d'années doit probablement aussi être lu à la lumière d'autres références temporelles faisant référence au règne des saints. En d'autres termes, nous pourrions nous demander pourquoi a-t-il utilisé 1000 ans. Probablement pour établir un contraste avec les périodes utilisées pour symboliser le règne de Satan et son activité violente de persécution et la mise à mort des saints. Ainsi, par exemple, ailleurs dans l'Apocalypse, nous avons vu dans les chapitres 2 et 3, la période de souffrance appelée 10 jours, une période symbolique probablement tirée de Daniel. Nous avons également vu la période d'activité du dragon appelée 3 ans et demi ou 3 fois et demi. Nous l'avons vu comme faisant référence à 42 mois et 1260 jours. Aujourd'hui, en revanche, les saints règnent 1000 ans. Il s'agit donc d'établir un contraste entre la période de temps limité, aussi intense soit-elle, la période de temps limité pendant laquelle Satan a régné et la période de temps pendant laquelle les saints ont régné, 1000 ans. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de décrire une période de temps littérale, ou je ne suggère pas vraiment une période de temps en termes d'une période étalée du règne des saints, mais simplement la valeur des chiffres. 1000 ans sont en contraste direct avec les 3 ans et demi, 42 mois et 1260 jours, pendant lesquels Satan et la bête ont été autorisés à faire des ravages sur le peuple de Dieu. Donc encore une fois, le but des chiffres est la justification pleine et entière du peuple de Dieu qui montre qu'en utilisant des nombres insignifiants ou plus petits, cela montre que le règne de Satan et son activité de persécution sont maintenant considérés comme insignifiants en comparaison. Les saints sont maintenant pleinement justifiés et tout cela est symbolisé par le règne millénaire. Alors maintenant, les saints sont indemnisés pour leur souffrance d'une manière qui dépasse tout ce qu'ils ont souffert aux mains de la bête, qui n'a duré que 10 jours, 3 ans et demi. Aujourd'hui, leur compensation, symbolisée par 1000 ans, dépasse de loin tout ce qu'ils ont dû subir aux mains de la bête. Probablement, du moins à mon avis, nous ne devrions pas lire plus dans le millénaire que cela et nous devrions être prudents avant d'y lire quoi que ce soit d'autre. C'est le seul rôle que je vois dans Apocalypse 20 et le reste de l'Apocalypse, le seul rôle qu'il joue, ou du moins le rôle principal que joue la règle millénaire est de symboliser la victoire et la justification des saints. Et ici, nous avons déjà vu des références à la justification des saints d'une certaine manière. Nous les avons vus victorieux au bord de la mer au chapitre 15. Nous les avons vus debout devant le mont Sion au chapitre 14. Mais maintenant, l'auteur veut décrire la justification des saints sous un jour différent. Il veut décrire la justification des saints plus spécifiquement en contraste avec la façon dont ils ont été traités par Satan en les ressuscitant et maintenant en les régnant au lieu que Satan règne et leur donne vie. Maintenant, en comparant la période pendant laquelle Satan a régné avec la période qui symboliquement 1000 ans fait référence à leur propre règne. Donc, pour remettre les choses en perspective, vous avez la scène du chapitre 20 où j'ai dit, je pense toujours que la fonction principale du chapitre 20 est le jugement de Satan. Et cela doit être considéré comme le verdict final et le jugement contre Satan. Il est également intéressant que nous devions peut-être également introduire l'idée qu'ailleurs dans l'Apocalypse, en particulier au chapitre 12, Satan était considéré comme l'accusateur des frères du peuple de Dieu en tant que saint. Alors maintenant, nous voyons Satan lui-même rendre compte de ce qu'il a fait dans un sens, et maintenant Satan est jugé. Mais une partie du jugement de Satan consiste également à montrer la justification de ceux qu'il a accusés et de ceux qu'il a blessés et persécutés. C'est pourquoi je pense que vous avez les versets 4 à 6, cette référence à la justification des saints dans le contexte du jugement de Satan, parce que son jugement, le rendu du verdict du jugement de Satan, selon lequel il est coupable du sang des saints. Il est coupable de la façon dont il les a traités. Une partie de son jugement signifie également que ceux qu'il a maltraités, blessés et mis à mort seront justifiés et il leur sera démontré que leur témoignage était valable, qu'il avait raison et que leur mort n'a pas été vaine. Le verset 5 continue ensuite jusqu'au verset 6, le verset 5 fait référence au reste des morts qui ressusciteront à la fin des 1000 ans. La question est, qui sont ces morts ressuscités après 1000 ans? Et est-ce une nouvelle résurrection? En d'autres termes, cela semble être une seconde résurrection. Ainsi, la première résurrection est exactement ce que Jean l'appelle au verset 4. Le verset 4 fait alors référence à la résurrection des saints. Et maintenant, le verset 5 semble anticiper une nouvelle résurrection, une autre résurrection. Nous allons rassembler cela dans un instant, mais gardez cela à l'esprit. Ainsi, le verset 6, le verset 6 dit, en fait, le verset 5, le reste des morts ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans, ce qui semble être cette référence au retour à la vie, qui semble anticiper une autre résurrection. Nous avons déjà eu une résurrection au verset 4, les saints prenant vie. Maintenant, le verset 5 semble suggérer le reste des morts, il y a encore beaucoup à faire après 1000 ans. Maintenant, la deuxième partie du verset 5, la dernière partie du verset 5 dit, ceci est la première résurrection. Quoi? Au verset 4, la renaissance des saints est la première résurrection. Mais alors remarquez que le verset 6 dit, bienheureux et saints sont ceux qui participent à la première résurrection. C'est le verset 4, les saints prenant vie. Bienheureux ceux qui participent à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Donc, ce qui est intéressant, vous avez une référence à une première résurrection, c'est-à-dire au verset 4, les saints renaissants et régnants, et vous avez une référence à une seconde mort, que nous verrons plus tard, John nous dira exactement ce qu'est la seconde mort. Vous avez donc une première résurrection et une seconde mort. Cela implique une seconde résurrection et une première mort. Est-ce que tout le monde suit ça? La première résurrection est au verset 4, et maintenant, au verset 6, Jean fait appel à une seconde mort. La première résurrection semble suggérer qu'il y a une deuxième résurrection quelque part. Sinon, pourquoi dire deux fois premier? Et puis la mention d'un deuxième décès semble supposer qu'il y a un premier décès. Mais John ne nous dit pas quoi, il ne parle pas d'un premier décès. Il n'en parle pas et ne dit pas de quoi il s'agit et utilise les mots première mort. Et il n'utilise pas non plus les mots seconde résurrection. Ces deux éléments semblent manquer. Ainsi, vous avez la première résurrection et la seconde mort. Où est la deuxième résurrection qui vient après la première? Et où est le premier mort? Ni l'un ni l'autre auquel John fait explicitement référence. C'est probablement ainsi que nous devrions le comprendre. La première résurrection est clairement au verset 4, la résurrection des saints symbolisée par les 1000 ans. Où est la deuxième résurrection? Il s'agit probablement du verset 5, la première partie du verset 5. Le reste des morts ne reviendront à la vie qu'après la fin des 1000 ans. Où voit-on cela? Versets 11 à 15. Je pense que les versets entre 11 et 15 sont la deuxième résurrection, où maintenant tous les morts, et remarquez particulièrement au verset 12, « J'ai vu les morts, grands et petits, debout devant le trône et les livres étaient ouverts. Un autre livre a été ouvert, c'est le livre de vie. Les morts étaient jugés selon ce qui avait été fait. Puis, au verset 13, la mer a rendu les morts qui s'y trouvaient, et la mort et Hadès ont également rendu leurs morts. Je pense que c'est la deuxième résurrection. Bien que John ne l'appelle pas de cette façon, je pense que c'est implicite. Au verset 5, le reste des morts n'est revenu à la vie qu'après la première résurrection, après les 1000 ans. Cette référence à la vie serait votre deuxième résurrection. Ensuite, je pense que les versets 11 à 15 décrivent cela, la deuxième résurrection. Il y a la première résurrection, verset 4, les saints renaissants et régnants, symbolisés par 1000 ans. Ensuite, la deuxième résurrection est celle des versets 11 à 15, où tous les morts sont ressuscités dans un acte final de jugement. Maintenant, nous avons également dit que Jean mentionne une seconde mort. Qu'est-ce que la deuxième mort? En fait, nous trouvons la deuxième mort clairement identifiée dans les versets entre 14 et 15 du chapitre 20. Sur ce grand trône blanc, lorsqu'ils sont relevés et jugés, verset 14, alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la deuxième mort. Donc, le jugement final étant jeté dans l'étang de feu, là où la bête a déjà été jetée au chapitre 19, et là où le dragon est jeté, et nous verrons qu'il est jeté au chapitre 20, l'étang de feu, et nous je vais voir ce que c'est dans un instant. C'est la seconde mort, et les chrétiens sont épargnés par cette seconde mort. Jean dit, bienheureux ceux qui participent à la première résurrection, ceux qui sont fidèles au Christ et ceux qui refusent de céder à la bête. Ils connaîtront la première résurrection à la vie, et Jean dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de cette seconde mort, qui est jetée dans l'étang de feu. C'est pour ceux qui participent à la seconde résurrection. Mais où est le premier mort? Il y a une seconde mort qui est jetée dans l'étang de feu. Y a-t-il un premier décès? Je pense que Jean suppose que la première mort est la mort physique, la décapitation et le meurtre que les chrétiens ont vécu dans le cadre de leur témoignage fidèle. Ainsi, les chrétiens subissent la première mort, c'est-à-dire la mort physique et les dommages causés par Satan et la bête, mais ils ne connaîtront pas la seconde mort, qui est jetée dans l'étang de feu. La raison pour laquelle ils ne le feront pas est qu'ils participeront à la première résurrection, c'est-à-dire qu'ils seront ressuscités, justifiés et régneront avec Christ. Ils connaîtront la première résurrection. Mais il y a une seconde résurrection, mais cette résurrection sera celle des morts, et elle entraînera l'entrée dans la seconde mort. J'espère donc vous avoir aidé à comprendre un peu ceci, les saints connaissent la première mort, la mort physique, mais ils connaîtront la première résurrection, les ressuscitant, les justifiant et régnant avec Christ. Il me semble que la seconde résurrection et la seconde mort sont donc réservées aux incroyants, à ceux qui s'opposent à Dieu et à son peuple. mais pour réitérer ce qui se passe dans les versets 4 à 6, je tiens à souligner que le thème principal de ceci est principalement le jugement de Satan, mais avec le jugement de Satan, avec le verdict maintenant donné à Satan, cela signifie également montrer que son traitement envers les saints était mauvais et injuste, et ses accusations à leur encontre étaient fausses. Cela signifie également que Dieu doit justifier son peuple. Et c'est ainsi que nous voyons cela se produire dans les versets 4 à 6, où ils sont ressuscités, ils prennent vie et règnent avec Christ 1000 ans. 1000 ans symbolisant simplement non pas une longue période de temps, mais 1000 ans, à mon avis, un symbole de leur justification, de leur récompense et de leur victoire. Ils ont été élevés et maintenant ils règnent contrairement à la manière dont Satan les a traités. J'espère donc que vous pourrez voir ce dont nous avons besoin pour comprendre le millénium en termes du chapitre 20, en termes de jugement de Satan. C'est presque un élément nécessaire du jugement de Satan pour justifier également ceux à qui il a fait du mal. Et donc les 1000 ans, cependant, nous le comprenons, doivent avant tout jouer ce rôle. Et toutes les autres questions que nous posons sur qui sera là et comment peut-il y avoir des gens qui peupleraient le millénaire etc., toutes ces questions sont probablement inutiles parce que John lui-même a un rôle très, très spécifique pour le millénium au chapitre 20. L'autre chose que nous avons noté est que le but principal de l'Apocalypse n'est donc pas le millénium, mais le chapitre 20 prépare simplement la finale, la grande finale est le point culminant du livre et l'objet du livre est l'objectif principal du livre, qui sont les chapitres entre 21 et 22 auxquels nous reviendrons dans un instant. Il y a donc deux dernières sections dans Apocalypse chapitre 20. Le premier est dans 7 à 10, nous lisons le jugement final de Satan, où maintenant il est en fait libéré de l'abîme afin, à ce stade, il est libéré de l'abîme afin qu'il puisse rassembler une armée et tromper une fois de plus les nations en rassemblant une armée pour le faire, ici, ils entourent le camp des saints. Le camp des saints ici est probablement simplement le symbole du peuple de Dieu dans son ensemble. L'idée ici est une fois de plus que Satan et le monde entier sont désormais perçus comme étant en opposition à Dieu et en opposition à son peuple et comme une menace pour le peuple de Dieu. Mais cette guerre se termine de la même manière que le chapitre 19, c'est-à-dire que Satan est simplement vaincu sans qu'aucun combat n'ait réellement lieu. Nous ne voyons pas d'escarmouche, ni de personnes des deux côtés, ni de victimes des deux côtés. Mais dans ce cas, le feu sort simplement du ciel et dévore Satan et tous ses ennemis, de sorte qu'il n'y a vraiment aucun combat. Je vous ai déjà suggéré que je pense que la bataille des versets 7 à 10 est la même que celle du chapitre 19 et des versets 17 à 21 est la même que celle du chapitre 17, où Satan et les 10 royaumes font la guerre à l'agneau et à l'agneau. La terre les vainc, ainsi que la bataille d'Armageddon dans le sceau numéro 6 de l'Apocalypse chapitre 16. Ce sont toutes simplement des manières différentes d'envisager la même bataille de la fin des temps. Et je vous ai suggéré que la bataille de la fin des temps est principalement censée symboliser le jugement. C'est avant tout une scène de jugement qui se déroule à la fin de l'histoire. Une autre raison de penser cela, que j'ai déjà mentionné, c'est que penser que cette bataille de 20, 7 à 11 est la même qu'à la fin du chapitre 19 et que le même texte de l'Ancien Testament se cache derrière. Autrement dit, Jean s'inspire du même texte, Ézéchiel entre 38 et 39, comme modèle pour décrire cette bataille. Ézéchiel entre 38 et 39 semble faire référence à une bataille de la fin des temps, et maintenant Jean l'a vu utiliser ce langage au chapitre 19, le langage de l'appel aux oiseaux et aux bêtes à se rassembler et à se préparer à se gaver des cadavres qui sont un résultat de la bataille. Maintenant, nous trouvons John utilisant la même langue ou utilisant le même texte. Par exemple, le fait que le feu descende du ciel pour les détruire ressort du chapitre 38 d'Ézéchiel. Donc, John, ce n'est pas une contradiction avec le chapitre 19, il les détruit avec l'épée qui sort de sa bouche. Aujourd'hui, ils sont détruits par le feu. Cela signifie-t-il que c'est une bataille différente? Non, nous avons vu que John peut utiliser différentes images pour représenter différents événements. Maintenant, s'appuyant sur la notion d'Ézéchiel et de la notion de feu sortant du ciel ou d'ennemis détruits par le feu, Jean dépeint les ennemis détruits par le feu en faisant allusion à Ézéchiel. Notez également la mention de Gag et Mégag. Chapitre 38 et verset 1 d'Ézéchiel, ceci est Ézéchiel chapitre 38 et verset 1, la parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme, une référence à Ézéchiel, fils d'homme, tourne ta face contre Gag du pays de Mégag. Ainsi, la référence de Jean à Gag et Mégag indique qu'il fait allusion au chapitre 38 d'Ézéchiel. Maintenant, qui sont Gag et Mégag? il y a eu toutes sortes de tentatives avec Ézéchiel ainsi qu'avec l'Apocalypse que je ne veux pas aborder ici, mais il y a eu toutes sortes de tentatives pour les identifier avec des nations modernes comme la Russie ou quelqu'un d'autre. En faisant de la gymnastique avec Gag et Magog et en les reliant aux phénomènes modernes, nous voyons souvent Gag et Magog traités comme gens prophétisant sur les nations modernes. Au lieu de cela, je pense que Jean lui-même nous dit qui sont Gag et Magog au verset 8. Satan sera libéré de prison et il sortira pour tromper les nations aux quatre coins de la terre, quatre étant le symbole de la terre entière. Je pense que Jean utilise Gag et Magog en allusion à la bataille d'Ézéchiel 38. Maintenant, Jean voit Gag et Magog comme des symboles pour toutes les nations de la terre entière. Voilà donc la terre entière maintenant en opposition finale avec Dieu et son peuple, la terre finale avec Satan derrière leur tentative de s'opposer à Dieu. Et encore une fois, en fait, en nombre, ils sont comme le sable du bord de la mer au verset 8, une autre indication qu'il ne peut pas y avoir seulement deux nations. Ce sont Gag et Magog qui symbolisent, en allusion à Ézéchiel 38, le symbole de la terre entière que Satan a maintenant séduite. Et maintenant, ils sont rassemblés pour le combat. Ils entourent les saints, ce que je vous ai suggéré, le camp des saints est probablement symbolique du peuple de Dieu lui-même. Bien que l'une des choses que fait ce texte ne suggère pas vraiment que maintenant les saints doivent avoir peur parce qu'ils sont entourés d'ennemis et qu'il y a maintenant une bataille. C'est probablement plus symbolique de la sécurité absolue des saints. C'est presque comme si le but de ceci était de montrer que rien ne peut renverser ce verdict du chapitre 20, versets 4 et 6. Rien ne peut renverser cela. Il n'y a aucune menace, aucune possibilité que leur justification puisse être annulée. Et cela est indiqué par la tentative de Satan, sa tentative ratée de rassembler toutes les nations contre le peuple de Dieu, et elles subissent simplement le même sort que celui que nous avons vu au chapitre 19. L'autre chose à dire à propos de cette bataille aussi, même si seul Satan est présent ou les deux bêtes étaient présentes au chapitre 19, encore une fois, cela n'indique pas des batailles séparées. Je pense que c'est une technique littéraire que Jean, comme nous l'avons déjà vu, dépose la Trinité impie, Satan et les deux bêtes dans l'ordre opposé dans lequel ils ont été introduits dans les chapitres entre 12 et 13. Donc, je pense que c'est juste un dispositif littéraire. Encore une fois, cela ne doit pas être pris dans un ordre chronologique strict. Ce sont, je pense, les mêmes batailles. L'idée de Satan est remarquée au chapitre 19, ce sont les deux bêtes qui ont rassemblé l'armée ici chez Satan. Mais au chapitre 16, c'est à la fois la bête et Satan qui ont rassemblé les armées, tous trois d'où sont sorties les grenouilles qui ont rassemblé les armées pour la bataille à Armageddon. Encore une fois, je pense que nous trouvons simplement différentes perspectives ou différentes manières d'envisager la bataille de la fin des temps. Au chapitre 19, nous avons vu la bataille de la fin des temps en relation avec les bêtes. Nous voyons maintenant la même bataille de la fin des temps en relation avec Satan lui-même. Mais nous avons déjà noté que, comme au chapitre 19, aucun combat n'a lieu. Il n'y a pas de bataille littérale ici. Et probablement parce que, comme au chapitre 19, il s'agit principalement d'une scène de jugement où maintenant Satan est jugé de la même manière que la bête et les faux prophètes l'étaient au chapitre 19. En fait, le verset 10 le montre clairement au chapitre 20, « Et le diable qui ceux qui les avaient trompés fut jeté dans l'étang de soufre ardent, où avaient été jetés la bête et le faux prophète. » Et ils furent tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Il s'agit d'une allusion claire au chapitre 19 de l'Apocalypse. Ainsi, dans le contexte du jugement de Satan au chapitre 20, qui est le point principal du chapitre 20, comme nous l'avons dit, nous constatons maintenant que la Trinité impie a finalement été enlevée et jugée, et toutes les nations et les rois de la terre avec eux. Il nous reste encore une scène du jugement final que nous examinerons dans un instant. Mais une autre chose que je veux souligner est que, remarquez que dans cette scène de bataille, commençant au verset 7, vous êtes présenté à Satan d'une manière qui vous relie à 1 et 3. Et nous avons dit qu'outre la mention du nombre 1000, qui relie ces trois scènes, vous pourriez en fait supprimer 4 à 6, et 1 à 3 se transformerait naturellement en 7. Ainsi, de 1 à 3, Satan est lié pour 1000 ans. Et au bout de 3 heures, il est mentionné qu'il sera libéré. Et maintenant, nous voyons au verset 7 qu'une fois les 1000 ans écoulés, Satan est maintenant libéré de sa prison. Maintenant, voici quelque chose d'important à dire. Tout d'abord, si nous essayons de lire ceci selon une succession chronologique stricte, cela n'a pas beaucoup de sens de voir les saints être justifiés puis après les 1000 ans. En d'autres termes, quand vous lisez ceci, il apparaît que nous devons prendre cela dans un sens temporel, ce langage après 1000 ans. Il semble donc que les saints soient ressuscités les premiers, et qu'ils soient justifiés pendant 1000 ans. Puis c'est après cela que vient le jugement. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que nous soyons censés prendre cela trop littéralement en ce qui concerne la succession chronologique. Au lieu de cela, la raison de ce langage temporel est que Satan serait lié dans l'abîme pendant 1000 ans puis libéré, et qu'il est capable de rassembler ses troupes contre les saints de Dieu. Ce langage, comme nous l'avons déjà noté, ce langage consistant à lier Satan afin de le libérer, vient des livres de l'Ancien Testament comme le chapitre 24 d'Ésaïe et des textes apocalyptiques comme un Enoch et des textes du Nouveau Testament qui reprennent ce thème, comme 2 Pierre 2 et Jude 6. Que se passe-t-il donc ici? Lorsque nous lisons au verset 3, après cela, il doit être libéré pour une courte période. Quiconque lit ce texte à la lumière de ce motif apocalyptique comprendrait que Satan a été libéré afin qu'il puisse passer en jugement. Et ainsi, au verset 7 du chapitre 20, quand il est dit que lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera libéré, quiconque pense à un Enoch et au texte de l'Ancien Testament, à ce concept de lier les esprits en prison, et pendant qu'ils sont en prison, ils attendent le jour du jugement, il lirait ceci alors que Satan est libéré pour aller en prison. Mais John, dans le cadre de son récit, ajoute une autre particularité. Avant d'entrer en jugement, ce qu'il fait au verset 10, Satan est donc enfermé dans l'abîme en attendant le jugement, où il est jeté dans l'étang de feu. Mais avant de faire cela, Satan est capable de tromper les nations et de lancer une dernière attaque. Mais la raison pour laquelle Jean raconte à nouveau la bataille de la fin des temps, je pense, est simplement pour démontrer une fois de plus que le verdict rendu sur le peuple de Dieu au chapitre 20, 4 à 6, le verdict d'être justifié, ressuscité et régné avec Christ, ne peut pas être renversé. On ne peut pas lui nuire. Satan est impuissant face au verdict final de Dieu. Au lieu de cela, Satan est dans la bataille de la fin des temps, est une fois de plus vaincu, comme les deux bêtes l'étaient, il est vaincu, et il entre dans sa destruction en faisant allusion et en suivant cette conception de l'Ancien Testament et d'autres textes apocalyptiques. Ainsi, au verset 7, avec le verset 10, nous atteignons finalement le point où tout Satan maintenant, les deux bêtes et Satan, ont été enlevés et jugés, et tous les rois de la terre et toute l'humanité ont été jugés. Ce qui reste alors est un jugement final au chapitre 20 et au verset 11 à 15, et c'est ce qu'on appelle la scène du jugement du grand trône blanc. Une autre façon de le dire est qu'il s'agit également de la deuxième résurrection, la première résurrection ayant lieu dans les versets 4 à 6 en relation avec les saints. C'est maintenant la deuxième résurrection, et ceux qui sont ressuscités vont à la seconde mort. Maintenant, comment pouvons-nous comprendre cela ? À mon avis, les versets 11 à 15, comme nous l'avons vu, sont la deuxième résurrection, la résurrection des morts qui sont jugés. À mon avis, c'est un jugement pour les morts incrédules. C'est un jugement pour les incroyants. Le jugement des saints a déjà eu lieu au verset 4 à 6. Leur jugement a été rendu en leur faveur. Ils ont été ressuscités et justifiés, et surtout si les saints décapités sont en quelque sorte une représentation de l'ensemble du peuple de Dieu, tous les saints ont été ressuscités et justifiés dans les versets 4 à 6. Alors, qui reste-t-il sinon les incroyants, les morts incroyants qui sont maintenant ressuscités, et ils sont jugés dans les versets 11 à 15. Donc, je ne vois pas Apocalypse 15 comme le jugement de tous, certains pour la vie éternelle et d'autres pour le jugement éternel. Je pense que les chiffres de 11 à 15 sont uniquement un jugement des incroyants, et maintenant ils sont jugés. Les saints ont été jugés, et le verdict est qu'ils sont justifiés, qu'ils ont raison, qu'ils sont ressuscités et qu'ils règnent avec Christ. Maintenant, au jugement des morts incrédules, ils sont ressuscités et ils finissent dans l'étang de feu avec les bêtes, deux bêtes et le dragon lui-même. En d'autres termes, je pense que probablement les versets 11 à 15 ne se produisent pas nécessairement chronologiquement après les autres événements. Encore une fois, il se peut qu'il s'agisse simplement d'une autre scène ou d'une autre manière de représenter, voici ce qui se passe lors de la seconde venue du Christ. Et cela ne suggère peut-être pas qu'après tout ce qui est dit dans les chapitres entre 19 et 20, cela finit par arriver, mais c'est simplement une autre manière de décrire le jugement de Dieu, les morts incrédules qui sont maintenant jugés. Le fait est qu'au bout de 20 ans, il ne reste plus rien. Vous avez les deux bêtes qui ont été jugées et jetées dans l'étang de feu. Vous avez Satan le dragon qui a été jugé et jeté dans l'étang de feu. Vous avez tous les morts incrédules qui ont été jugés et jetés dans l'étang de feu. Vous avez jugé et détruit toutes les nations et tous les rois de la terre, punis en jugement, de sorte qu'à la fin du chapitre 20, il ne reste plus rien. Tout le mal a été supprimé. La trinité satanique maléfique a été supprimée. tous leurs disciples, tous ceux qui suivaient la bête et adoraient son image, tous ceux qui refusaient de reconnaître la souveraineté de Dieu et tous ceux qui causaient du mal au peuple fidèle de Dieu, ont maintenant été éliminés dans une série de scènes de jugement qui ne le sont pas suivies nécessairement chronologiquement, mais décrivaient simplement ce qui se passe lorsque le Christ vient à la fin de l'histoire pour juger, de sorte que vous soyez maintenant préparés pour les chapitres 21 et 22. Maintenant, la nouvelle création peut arriver. Maintenant, pour revenir en arrière et examiner quelques détails de la section, le grand trône blanc n'est probablement pas censé indiquer un trône différent ou séparé, mais probablement le grand trône blanc, et notez comment il est décrit, « Puis j'ai vu un grand, grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Il me semble que je me souviens du chapitre 4, celui qui est assis sur le trône. Je suppose donc qu'il s'agit du même trône que le chapitre 4. » En fait, au chapitre 4, il y a des motifs clairs de jugement dans le chapitre 4, le tonnerre et les éclairs qui grondent en relation avec le trône et celui qui est assis sur le trône. Nous avons vu cela comme un motif de jugement tout au long du livre. Alors maintenant, le trône vu au chapitre 4, Dieu assis sur le trône, il commence à promulguer le jugement final. Donc le grand trône blanc, probablement le même trône du chapitre 4. Et maintenant nous trouvons tous les morts, et j'ai suggéré qu'il s'agissait probablement d'un croyant. Le jugement des croyants a eu lieu au verset 4 et 6. Ils ont été ressuscités maintenant, les morts incrédules ressuscitent, mais ils vont au jugement, ils vont à la seconde mort. La mention des livres, les livres fonctionnent dans l'Apocalypse, et vous voyez cela dans d'autres textes apocalyptiques comme une métaphore, souvent une métaphore ici pour enregistrer les œuvres, mais aussi une métaphore pour l'appartenance et qui est le peuple de Dieu. Ici, les œuvres fonctionnent comme base de jugement. Il est probable que les livres ici reflètent une fois de plus un autre texte de l'Ancien Testament, le chapitre 7 de Daniel, que nous avons vu jouer un rôle crucial à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, mais le chapitre 7 et le verset 10 de Daniel mentionnent un livre. Dans 7 verset 10, une rivière de feu coulait devant lui, et ceci est une description de l'Ancien des Jours, des milliers et des milliers le suivaient, des dizaines de milliers et 10 fois 10 000 se tenaient devant lui. La cour était assise et les livres étaient ouverts. Daniel 7 est un sous-texte approprié pour le chapitre 20 de l'Apocalypse, car ce que nous suggérons est que l'Apocalypse semble être une sorte de scène de cour, tout comme le chapitre 7 de Daniel. Et maintenant, les livres sont ouverts dans le chapitre 7 de Daniel. Au chapitre 12 de Daniel, nous lisons à ce moment-là que se lèvera Michel, le grand prince qui protège ton peuple. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu jusqu'alors depuis le début des nations. Mais à ce moment-là, ton peuple, tous ceux dont le nom est écrit dans le livre, seront délivrés. Des multitudes qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les unes pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Ici je prends à la section Daniel, ceux qui le seront, certains seront élevés dans la honte et dans un mépris éternel. C'est ce qui est dépeint ici. Ceux qui sont ressuscités sont décrits dans les versets 4 à 6. Maintenant, l'autre moitié de cela, ceux dans les livres qui doivent maintenant être élevés pour le mépris et le châtiment, c'est ce qui est décrit dans les versets 11 à 15. Ainsi, les livres contiennent alors leurs œuvres. En d'autres termes, je pense qu'il s'agit d'une référence à cela, les œuvres étant principalement le numéro 1, peut-être ceux qui ont tué les saints, mais aussi le fait qu'ils ont suivi la bête. Ils participèrent aux activités idolâtres et impies de l'Empire romain. Ils ont suivi la bête et ont tué le peuple de Dieu. Et maintenant, ils sont jugés pour cela. Le livre de vie est ici simplement parce que, je le souligne, je pense que leurs noms n'y ont pas été trouvés. Au chapitre 3, au verset 5, Jean a promis à l'église de Smyrne que leurs noms ne seraient jamais effacés du livre de vie. Maintenant, le livre de vie apparaît ici, je pense, pour démontrer que les noms de ces personnes n'ont pas été trouvés dans le livre de vie. Ainsi, tous les livres ici constituent simplement la base du jugement du peuple de Dieu. Notez, de manière intéressante, qu'en ajoutant cette notion de suppression complète de tout mal, de jugement complet de tout mal et de toute la création au verset 13, la mer a rendu les morts qui étaient en elle, et la mort et Hadès ont rendu les morts. C'est intéressant. La mort abandonne sa mort. La mort, peut-être ici, est en quelque sorte considérée comme un pouvoir qui a autorité sur le peuple. Et puis la mort et Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Nous voyons donc ici une notion que l'on retrouve ailleurs, même dans la littérature apocalyptique, peut-être de la mer et aussi d'Hadès comme une sorte de lieu des morts. Et maintenant, ils abandonnent leur mort dans le contexte du jugement. Mais pas seulement, c'est intriguant dans cette scène, et comme je l'ai dit, de souligner la finalité du jugement et l'élimination complète de tout mal dans cette scène du jugement final. Notez comment le verset 11 commence, « Puis j'ai vu le grand trône blanc et celui qui était assis dessus », chapitre 4 de l'Apocalypse, « La terre et le ciel ont fui sa présence ou les cieux et la terre ont fui sa présence. » Et en d'autres termes, il fuit aussi en jugement. Et il est dit qu'aucune place n'a été trouvée pour eux. Ainsi le ciel, même les cieux et la terre fuient en jugement devant celui qui est assis sur le trône. Pourquoi est-ce si? Pourquoi la terre aussi et le ciel? Nous y reviendrons lorsque nous arriverons au chapitre 21, qui introduit une nouvelle création, et nous demanderons comment devons-nous comprendre cela. Devons-nous le comprendre comme la destruction complète et l'effacement de cette création dans une toute nouvelle création sortie de rien au chapitre 21? Ou devrions-nous le comprendre d'une autre manière? Nous en parlerons un peu plus tard. Mais je pense qu'une partie de la raison de la suppression de la terre et du ciel est également de se rappeler que jusqu'à présent dans l'Apocalypse, la terre et le ciel ont été gouvernés par les bêtes et par Satan lui-même. Satan est le dirigeant du monde. Satan et la bête ont ravi la terre. Ils lui ont causé beaucoup de mal. Ils ont régné sur la terre et l'ont exploité. Alors maintenant, dans une scène de jugement global, Jean dit que la terre et le ciel sont également supprimés. Il ne s'agit donc pas principalement d'un commentaire géographique, même s'il inclut probablement cela. Mais cela vise idéologiquement à représenter la terre comme la sphère du règne de Satan. La terre a été ravagée, détruite et endommagée par Satan et par la bête. La terre est l'endroit où le peuple de Dieu a été blessé. La terre qui était gouvernée par Rome et les empires impies a maintenant été enlevée et détruite. Il ne s'agit donc pas tant d'une affirmation géographique que d'une affirmation théologique et idéologique, je pense. De sorte que même la mer, la terre et le ciel sont désormais considérés comme sujets au jugement en raison de cette image holistique du monde actuel comme un monde où la bête et Satan ont régné et fait leur mal. Ailleurs, ils sont décrits comme les destructeurs de la terre. Un autre commentaire dans cette section est la référence au lac de feu. Comme vous l'avez probablement compris maintenant, et vous pourrez peut-être deviner la façon dont je vais gérer cela, l'étang de feu n'est pas non plus censé être pris au pied de la lettre. C'est comme si nous devions penser en termes de quelque part un chaudron littéral, un vaste chaudron de flammes sortant dans lequel les gens, la bête, le dragon et les gens sont littéralement jetés. Pas plus que cela, le dragon est un dragon littéral, par opposition à Satan lui-même. Ainsi, l'étang de feu n'est pas tant une référence à un lac ou à un chaudron littéral crachant du feu dans lequel les gens sont littéralement jetés, mais probablement simplement un symbole de jugement. C'est le symbole d'un retrait complet de la présence de Dieu. Un symbole de l'humanité retirée de la présence de Dieu et lui permettant fondamentalement de vivre une vie séparée de la présence de Dieu et sous le contrôle de Satan et des bêtes éternellement. Mais John ne dit pas grand-chose sur l'endroit où cela se trouve et à quoi ça ressemble. Encore une fois, le point principal est que la justification du peuple de Dieu signifie le jugement de ceux qui lui ont fait du mal et la séparation complète de toute l'humanité de la présence de Dieu. Comme nous le verrons dans les chapitres entre 21 et 22, la bénédiction ou la récompense qui revient au peuple de Dieu est la vie dans la présence de Dieu. Je suppose donc que l'étang de feu est alors juste à l'opposé de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle création dans Apocalypse chapitre 21. Mais je veux dire bien plus que cela, sauf qu'il symbolise le jugement qui aboutit à la séparation éternelle de la présence de Dieu. Ainsi, le chapitre 20 se termine avec la suppression de tout le mal dans une scène de jugement complète. Nous devrions probablement également inclure le chapitre 19, versets 11 à 21, jusqu'à la fin du chapitre 20. Dans une scène de jugement complète, tout le mal a été enlevé et jugé. Comme je l'ai déjà mentionné, les deux bêtes ont été enlevées et jugées. Les rois de la terre ont été destitués et jugés. Toutes les nations de la terre ont été expulsées et jugées. Satan lui-même, le dragon, a été chassé et jugé. Tous les morts incrédules ont maintenant été ressuscités, enlevés et jugés. Même la création elle-même a été jugée. Les cieux et la terre actuelle, non seulement géographiquement, mais aussi comme lieu de domination de Satan, lieu où il a causé du mal, lieu que lui et la bête ont ravagé, tout cela a été supprimé dans une scène de jugement global. Et dans le cadre de cette scène, en anticipant les chapitres entre 21 et 22, dans le cadre de cette scène du jugement, le jugement de l'humanité incrédule, de la bête et de Satan nécessite également de démontrer que la façon dont ils ont traité et fait du mal au peuple de Dieu était incorrecte. Ainsi, une partie du jugement signifie la justification du peuple de Dieu, symbolisée par le règne millénaire, ressuscité et régnant pendant 1000 ans, symbolisant sa justification. Mais même cela n'anticipe que les chapitres entre 21 et 22, où nous verrons que les saints régneront pour toujours et à jamais. Ainsi, tout le mal, chaque chose mauvaise, chaque lieu mauvais, chaque personne mauvaise, a maintenant été supprimé dans la scène globale, un acte de jugement global, ouvrant maintenant la voie à un nouvel acte créateur, qui est l'arrivée du nouveau. Création dans Apocalypse 21. Ainsi, tout ce qui reste maintenant, tout ce qui reste après 20 ans, est destiné aux saints qui ont été confirmés dans les chapitres 20, 4 à 6, tout ce qui reste est aux saints d'entrer dans leur héritage éternel. Et c'est exactement ce que nous trouvons à partir des chapitres entre 21 et 22. Passons donc au chapitre entre 21 et 22, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas seulement la dernière série de séquences visionnaires, le segment visionnaire de l'Apocalypse, c'est le point culminant de tout le livre. On pourrait même dire que c'est le point culminant, comme nous le verrons lorsque nous y travaillerons. On pourrait même affirmer qu'il s'agit du point culminant de toute la Bible, à commencer par Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, où l'humanité est créée pour vivre sur terre avec Dieu habitant en leur présence, ce qui a été contrecarré et ruiné à cause du péché dans Genèse chapitre 3. Le reste de la Bible peut être considéré, à un certain niveau, comme une tentative de restaurer cela. Comment Dieu va-t-il récupérer sa création et restaurer son peuple dans une relation avec lui-même ? Et comment va-t-il restaurer son peuple dans une situation où il règne désormais sur terre, où il vit sur terre et où Dieu demeure en sa présence? Le reste de la Bible, dans un sens, explique comment Dieu fait cela à travers la personne de Jésus-Christ. Et maintenant nous trouvons le point culminant de l'histoire de Dieu, une histoire historique rédemptrice, atteignant maintenant sa consommation ultime avec l'humanité de la même manière que nous l'avons vu dans Genèse 1 et 2. Maintenant, Dieu demeure avec son peuple sur terre dans une nouvelle création. Nous y reviendrons un peu plus, mais le point important est qu'Apocalypse 21 est certainement le point culminant du livre de l'Apocalypse et pourrait être compris comme le point culminant de la Bible entière. Cela contraste certainement aussi avec les visions du jugement que nous avons vues, en particulier dans les chapitres 17 à 20 dans le contexte du jugement. Maintenant, en contraste frappant avec cela, cette vision du salut et de la récompense pour le peuple de Dieu sur une nouvelle création ressort certainement avec un relief audacieux. Maintenant, le salut de Dieu pour son peuple sous la forme d'une nouvelle création est arrivé. Il existe une poignée d'autres commentaires sur ce texte en général. Le chapitre 21 et les versets 1 à 8, nous l'avons dit, appartiennent en fait à une section entière, comprenant les chapitres entre 19 et 20. Nous avons dit le contraste principal qui a des caractéristiques structurelles claires, comme un ange qui tenait les sept taureaux emmenant Jean voir la prostituée Babylone et se terminant ensuite par Jean se prosternant pour adorer l'ange et l'ange disant de ne pas le faire. Vous trouvez maintenant ces deux sœurs livres préfaçant également une vision de l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, commençant par 21, 9 et allant jusqu'à 22, 6 et quelques versets qui suivent. Cela signifie donc qu'une grande partie du chapitre 19 jusqu'à 21, 8 est en quelque sorte une section de transition entre la destruction de Babylone, la Babylone prostituée, et l'arrivée de la nouvelle épouse Jérusalem. Entre les deux, vous trouverez une série de scènes de jugement, où toute l'humanité, la bête et le dragon sont traités, puis tout est supprimé dans un jugement global. Maintenant, le chapitre 21, versets 1 à 8, appartient à cela, mais maintenant il fournit un cadre, une introduction pour l'arrivée de la nouvelle épouse Jérusalem dans 21, 9. Et le cadre qu'il offre est celui d'une nouvelle création, de l'émergence d'un tout nouvel ordre. Et ainsi maintenant, après le jugement de Dieu et après la nouvelle création dans 21 versets 1 à 8, maintenant l'épouse nouvelle Jérusalem contrairement à la prostituée ou prostituée Babylone, maintenant l'épouse nouvelle Jérusalem sera introduite et peut maintenant émerger et le mariage peut être conclu. Que nous verrons au chapitre 21 et au verset 9. Une autre façon de voir les choses également est que les chapitres 4 et 5 sont finalement devenus une réalité dans les chapitres entre 21 et 22. Nous avons dit que les chapitres 4 et 5 nous présentent une scène où tout le ciel reconnaît la souveraineté de Dieu, celui qui est assis sur le trône, et le reste du livre de l'Apocalypse peuvent être vus comme comment la volonté de Dieu est faite au ciel, comment la souveraineté de Dieu est reconnue au ciel, comment cela se réalise-t-il finalement sur une terre qui peut l'attester. Nous voyons maintenant que la scène des chapitres 4 et 5 devient désormais une réalité sur terre sous la forme d'une nouvelle création. Une autre façon de voir les choses est que le ciel et la terre fusionnent maintenant dans les chapitres entre 21 et 22, alors que le ciel descend sur la terre. Le trône de Dieu et la demeure céleste dans les chapitres 4 et 5 sont maintenant coextensifs avec la nouvelle création dans Apocalypse entre 21 et 22. J'ai entendu, ou j'ai vu un titre de sermon, je n'ai pas entendu le sermon, j'ai vu un titre de sermon il n'y a pas longtemps. Sur Apocalypse entre 21 et 22, et il était intitulé La nouvelle demeure de Dieu, et j'ai été perplexe pendant quelques secondes, mais plus j'y pensais, plus je pense que c'est exact. Nous pensons souvent au chapitre 21 comme à notre nouvelle demeure, au but principal et à la destinée céleste, à la principale récompense du peuple de Dieu, et c'est certainement vrai, c'est ainsi que c'est présenté. Mais vous êtes-vous déjà arrêté et pensé que Apocalypse entre 21 et 22 parle également de Dieu qui obtient une nouvelle maison? Dieu descend du ciel et maintenant le trône de Dieu et sa demeure sont maintenant avec son peuple sur une nouvelle terre. En d'autres termes, dans les chapitres entre 21 et 22, Dieu fait quelque chose qu'il n'a pas fait depuis Genèse 1 et 2, demeurer immédiatement et directement avec son peuple sur terre. Quelque chose qu'il n'a pas fait depuis 1 et 2, quelque chose qui a été ruiné, contrecarré et perturbé à cause du péché, redevient maintenant une réalité. Ainsi, les chapitres entre 21 et 22 ne parlent pas seulement de notre nouvelle maison, mais aussi de la nouvelle maison de Dieu, car nous voyons Dieu faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis la Genèse, c'est-à-dire demeurer directement au milieu de son peuple sur une terre. Nouvelle création, sur une nouvelle terre. Alors maintenant que dans les chapitres entre 19 et 20, tout a été jugé, la seule chose qui reste est que le peuple de Dieu entre dans son héritage, jouisse de son héritage, qui est une nouvelle création, vivant sa vie dans une nouvelle création sur une nouvelle terre avec Dieu et l'agneau vivant au milieu d'eux. Dans la section suivante, j'examinerai un peu plus en détail la représentation de la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, la représentation de l'ordre final, la réalité de la fin des temps dans les chapitres entre 21 et 22 et j'examinerai sa fonction dans le contexte de tous. De l'Apocalypse, mais examiner également certaines parties détaillées de la description de la nouvelle création dans les chapitres entre 21 et 22. Il s'agit du Dr Dave Matthewson dans son cours sur le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de la séance 27 sur Apocalypse 20, le millénium et le jugement du grand trône blanc.